Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur LA Radio au Collège Louis Armand de Dreux. Bienvenue dans notre première émission présentée par les élèves de 3e E. J'espère que vous allez bien. Je suis Elena, l'animatrice. Tout de suite, je vous annonce les sujets que nos chroniqueurs vont aborder. Dans la chronique Société, nous allons parler du terrorisme. Ensuite, dans la chronique Culture, nous aborderons sur le sujet un phénomène très actuel, Netflix. Nous ferons ensuite un micro-trottoir sur le tabagisme des jeunes. Puis ensuite, dans la chronique Vie du Collège, le gaspillage alimentaire. Poursuivons avec la chronique Environnement sur la maltraitance animale. Nous ferons un zoom sur le projet Mairie. Dans la chronique Santé, les fast-foods et leur hygiène. Dans la chronique Sport, les Jeux paralympiques. Et dans la chronique Tendance, nous aborderons les youtubeurs. Et dans la chronique Loisirs, nous parlerons sur un phénomène très actuel, Pokémon Go. Dans la chronique Société, nous avons choisi de parler sur le terrorisme. Pour commencer, accueillons Shaïma, Diana et Yasmine.
Bonjour Elena, bonjour à tous. Donc, à cause de l'actualité, on s'est intéressé au sujet du terrorisme parce qu'il a un impact sur la société et nos vies au quotidien.
Alors nous avons cherché à savoir ce que veut dire exactement ce mot. Si le terrorisme est un problème de notre époque et comment et pourquoi cela existe.
Tout d'abord, dans le mot terrorisme, il y a le mot terreur. Le terrorisme, c'est une forme de haine envers une communauté, un peuple ou encore une religion, mais c'est surtout une volonté de faire peur à la population et pour faire pression sur le gouvernement. C'est aussi le fait d'utiliser la violence meurtrière pour imposer ses idées politiques ou religieuses.
Les terroristes n'attaquent que les civils, ils ont plusieurs méthodes, comme les attentats, les sabotages, les prises d'otages, les pillages et les assassinats ciblés.
Nous avons été surprise de découvrir que le mot terrorisme existe depuis toujours, mais qu'il n'a pris tout son sens que pendant la Révolution française, pendant la période qu'on appelle la terreur.
Depuis la Révolution, il y a eu de nombreux terroristes partout dans le monde. Si on veut rester en France, on peut citer l'ETA, qui est un groupe terroriste franco-espagnol qui se battait pour l'indépendance du Pays Basque, et le FNLC, qui se battait quant à lui pour l'indépendance de la Corse.
De manière générale, l'objectif principal est commun à tous les terroristes et de vouloir créer leur propre État indépendant. Les groupes terroristes les plus récents sont Boko Haram et Daesh.
Par exemple, en 2014, il y a eu 32 000 personnes mortes à cause des actes terroristes. 9 fois plus qu'en 2000, avec 3 029 morts. 60% des actes ont eu lieu en Irak, au Pakistan, en Afghanistan, au Nigeria et en Inde.
Ces deux groupes appartiennent au terrorisme islamiste qui ont été à l'origine des attentats à Paris, à Nice, mais aussi à Bruxelles en 2015 et 2016. Ce sont des djihadistes qui rêvent de créer leur propre État et d'imposer leur vision de l'islam qui n'est pas du tout celle de la majorité musulmane.
Comment fonctionnent les organisations terroristes de manière générale? Il faut savoir qu'il y a toute une économie derrière tout ça. Pour se financer, ils reçoivent des dons privés, ils pillent les richesses des pays occupés, le pétrole, l'argent, etc. Ils prennent des otages et réclament des rançons. Ils imposent des impôts aux civils des villes qu'ils occupent.
En ce qui concerne leurs membres, ils recrutent partout dans le monde grâce à Internet à l'aide de vidéos de propagande. 1000 Français auraient rejoint les djihadistes en Syrie et en Irak.
Les personnes qui se sont fait recruter ont généralement entre 16 et 30 ans. Il n'y a pas d'origine type. Toutes personnes confondues rejoignent les djihadistes. Il y a de plus en plus de filles qui s'engagent.
Mais de manière générale, ce sont souvent des personnes perdues, déboussolées, souvent des ex-délinquants ou des ex-prisonniers qui ont découvert l'islam en prison auprès d'autres personnes en rupture avec la société et qui croient se racheter une conduite comme ça.
Pour conclure, il est important de s'intéresser à ce sujet, de savoir ce qu'est vraiment le terrorisme, ce qui se cache derrière ces actes horribles. On a vu que le terrorisme a toujours existé, mais qu'il semble s'aggraver à notre époque car il touche de nombreux pays dans le monde.
Personnellement, je pense que les attentats et les actes terroristes ne seront jamais justifiables et la meilleure solution serait de réussir à bloquer leur financement pour que le monde vive en paix.
Je pense que c'est un sujet important car on voit l'envers du terrorisme, ses revenus, son mode de recrutement, le profil de ses membres, etc. Et c'est un sujet qui nous permet de nous rendre compte de l'ampleur des dégâts et des conséquences sur notre futur.
Pour moi, ce sont des actes monstrueux. Ce sujet nous a beaucoup fait réfléchir et il permet de savoir en réalité ce qu'est vraiment le terrorisme.
Pour ma part, je trouve ça très intéressant de parler sur le terrorisme, car c'est un fait malheureusement qui touche tout le monde. Il faut rester positif et ne pas céder et ne pas avoir peur du terrorisme. Un peu de culture maintenant, avec un phénomène très actuel. Poursuivons avec Ryan et Léa sur Netflix.
Netflix est une plateforme sur laquelle nous pouvons regarder divers films, séries et documentaires, avec abonnement sur Internet. Au 1er janvier 2016, Netflix comptait près de 70,8 millions d'utilisateurs. Mais pourquoi a-t-il autant de succès ?
Nous allons commencer par vous présenter Netflix et ses avantages, puis vous parler aussi des inconvénients.
Netflix est une entreprise américaine qui a été créée en 1997 par Reed Hastings, qui est aujourd'hui son directeur. Le principe est simple. Il suffit d'une connexion Internet et d'un écran, mais depuis le 30 novembre 2016, il est même possible de regarder certains films et certaines séries sans connexion Internet en les téléchargeant.
C'est très pratique car on peut accéder à Netflix de quasiment partout dans le monde. Mais Netflix a aussi d'autres avantages. Par exemple, il y a un système de recommandation qui vous propose des films et des séries par rapport à ce que vous avez déjà vu.
De plus, on trouve aussi des films en tout genre, des séries, des documentaires. Le catalogue est assez large car il compte plus de 2125 films, séries et documentaires. Donc on peut sans aucun problème trouver des films à nos goûts.
Ensuite, Netflix offre une certaine mobilité des films car on peut les regarder n'importe où et n'importe quand. On peut arrêter le film quand on veut et le reprendre plus tard.
Un autre avantage est que l'on peut aussi annuler son abonnement quand on le souhaite. Bien sûr, Netflix a aussi des inconvénients. Tout d'abord, la plateforme doit respecter la chronologie des médias. C'est-à-dire que si un film sort au cinéma, Netflix ne pourra pas le proposer tout de suite.
Puis, il y a un abonnement à payer tous les mois. Cela commence à 7,99€ par mois et cela augmente selon le nombre d'écrans choisis.
Mais franchement, pour moi, ce n'est pas vraiment un inconvénient. Car pour regarder un seul film au cinéma, on paye près de 10€. Alors que sur Netflix, on paye une fois par mois pour regarder autant de films que l'on veut. Pour conclure, Netflix est une bonne plateforme car il y a beaucoup d'avantages et peu d'inconvénients. On peut regarder autant de films, séries ou documentaires qu'on veut au prix d'une place de cinéma.
Pour moi, je trouve que Netflix ne sert à rien car il n'y a pas beaucoup de films et séries intéressantes. Ensuite, c'est payant car il faut payer tous les mois un abonnement et sur un an, ça fait beaucoup. En plus, tout le monde ne peut pas y accéder.
Au contraire, je trouve que Netflix est intéressant car il y a vraiment beaucoup de choix. On peut regarder n'importe où ses séries préférées, même en vacances.
J'adore les films et je ne connaissais pas Netflix. Je pense que je vais tester Netflix et c'est à vous, chers auditeurs, de vous faire votre opinion. Accueillons maintenant pour le micro-trottoir Bilal et Zakaria sur le tabagisme des jeunes.
Bonjour, je m'appelle Zakaria, je suis en classe de 3e E. Aujourd'hui, je vais vous parler du tabac. Nous avons choisi le sujet du tabac, plus précisément le tabac chez les jeunes, vu que le tabac attire de plus en plus de jeunes alors que tout le monde sait que c'est mauvais pour la santé.
On s'est demandé pourquoi y a-t-il autant de fumeurs chez les jeunes. Qui sont ces fumeurs? Pourquoi est-ce qu'ils se mettent en danger et comment ils pourraient arrêter de fumer?
Donc on a d'abord voulu savoir qui sont les fumeurs. Apparemment, presque tous les fumeurs commencent à fumer avant 20 ans, souvent au collège et au lycée. Aujourd'hui, les jeunes fument du tabac, du cannabis et parfois la chicha.
Les jeunes prennent souvent exemple sur les adultes et les imitent. Quand un jeune a des parents qui fument, il y a plus de risques qu'il fume aussi. Les jeunes peuvent aussi se faire influencer par leurs amis pour se faire accepter dans leur groupe. Ou encore, ils fument pour paraître plus mature, plus adulte.
Pourtant, le tabac est nocif pour la santé car il contient de nombreuses substances dangereuses comme du plomb, du goudron ou du butane, etc. De plus, un adulte sur 10 meurt dans le monde entier à cause de la cigarette.
Le tabagisme passif, c'est-à-dire les gens qui respirent la fumée de la cigarette alors qu'ils sont non-fumeurs, provoque 602 000 décès prématurés par an dans le monde, surtout des enfants.
En plus, fumer coûte cher car le prix du paquet peut atteindre les 8€. Et par exemple, fumer un paquet de cigarettes par jour revient à gaspiller 2 900€ par an. Avec cette somme, on peut faire plein de choses comme s'acheter une très belle voiture neuve ou aller en vacances.
Il est donc important d'arrêter de fumer d'abord. Il faut être entouré pour avoir assez de volonté pour arrêter de fumer.
Puis on vous conseille d'éviter de fréquenter le plus possible les lieux de fumeurs car l'odeur de la cigarette risque de vous donner l'envie de refumer.
Mais d'autres moyens sont à votre disposition, le service tabacologie de l'hôpital qui pourra vous aider à arrêter grâce à un suivi par des médecins.
Il y a aussi des substituts comme des patchs qui vous serviront à compenser le manque de nicotine.
Vous pouvez aussi vous trouver une activité qui vous changera les idées et vous évitera de penser à la cigarette, comme faire du sport régulièrement. Nous sommes allés dans la rue pour faire un micro-trottoir et demander aux gens ce qu'ils pensent du tabagisme chez les jeunes. Que pensez-vous des jeunes fumeurs ?
Ben, c'est pas bien. Je pense que les parents devraient intervenir efficacement pour éviter que ça se produise. C'est pas bon pour la santé. Moi-même, j'étais une fumeuse et j'ai arrêté il y a une dizaine d'années. Je suis bien contente d'avoir arrêté et je souhaite ne pas avoir de problème de santé non plus.
J'ai fait la bêtise de fumer à votre âge. Je le regrette. Et je continue et j'arrive pas à arrêter.
Ah bah pour moi très tôt, ça devrait être littéralement interdit. Déjà normalement la vente de tabac c'est interdit pour les jeunes mineurs, donc plus c'est tôt, plus c'est inadmissible.
Il faut éviter de fumer très tôt. Si on peut éviter, moi je sais que ma fille avait commencé, je lui ai dit arrête, et en plus c'est une sportive, donc elle se rendait compte que il fallait arrêter. Donc voilà, je dis aux jeunes, je fume moi, mais je dis aux jeunes, j'ai commencé à fumer, j'avais 21 ans quand même. Maintenant c'est 14, 13, 14, 15, donc non, je ne suis pas pour. C'est très dur de s'arrêter ensuite, hein. Donc évitez, parce qu'après ça devient une drogue, et même si on s'arrête, on reprend. On se dit, on va arrêter, on reprend. J'ai arrêté quand j'ai eu ma fille, quand j'étais enceinte, donc j'ai arrêté pendant plus de 10 mois. Et puis un jour, je suis passée devant le tabac, je dis, qu'est-ce que tu fais, Martine ? Je vais en reprendre une, mais comme ça, et puis après, c'est reparti.
À votre avis, pourquoi les jeunes ils sont attirés par la cigarette ?
Je pense par rapport à leurs copains. Ils ont des copains qui fument, et ils disent, c'est bon, ils fument, donc moi, je peux fumer, ça donne un style. Comme ça, on voit que je suis un grand, alors qu'au final, c'est rien du tout.
Quelles mesures doit-on prendre pour que les jeunes ne soient pas attirés par la cigarette ?
Supprimer le tabac, la drogue, tout ce qui est néfaste.
Alors ça, malheureusement, ça va être un peu dur. Le fait que le vente de tabac soit interdite aux mineurs, ça, faudrait déjà contrôler l'identité des mineurs. Déjà, rien que ça, ça ferait déjà du bien, quoi. Dire à un mineur, non, t'as pas le droit d'en acheter, ce serait déjà pas mal, quoi.
Arrêter de vendre des cigarettes, mais ça, l'État, ils vont perdre beaucoup, donc éviter de fumer. On assume. Bon, pour éviter, après, vous avez l'acupuncture, vous avez plein de choses, mais c'est une question de volonté au départ. S'il n'y a pas la volonté... La cigarette électronique, il y a beaucoup, beaucoup de pour et de contre, parce qu'apparemment, il y a des toubibs qui disent que c'est peut-être encore plus nocif que la cigarette normale. Moi, je ne m'y suis jamais mise. Je ne pense pas que je m'y mettrais. Si je dois, j'arrêterai. Si je dois faire quelque chose, c'est que j'arrêterai définitivement. Après, tout dépend des circonstances de la vie. Si vous avez des soucis, pas de soucis, etc. C'est plus difficile d'arrêter quand vous avez des gros soucis dans la vie privée.
Bah, réellement l'interdire dans les tabacs, qu'on ne puisse pas acheter des cigarettes étant en dessous de 18 ans. Augmenter le prix, je crois que c'est la seule chose qui fera que... j'arrêterai. Et puis savoir qu'effectivement, c'est très mauvais pour la santé.
En conclusion, nous pensons que le tabac est un sujet qui occupe une place importante dans notre société car il touche différentes générations et provoque beaucoup de problèmes de santé et financiers.
Un conseil, évitez de commencer.
Et je pense que la cigarette doit être déconseillée et même interdite au moins de 21 ans car plus on commence jeune, plus c'est difficile d'arrêter.
Je suis tout à fait d'accord avec Zacharia et Bilal. Le tabac a pris une très grosse place dans notre société. C'est très important de sensibiliser surtout les jeunes, parce que les jeunes fument de plus en plus. Retrouvez-moi ensuite avec Nour sur le gaspillage alimentaire. Bonjour Nour.
Bonjour Elena, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui touche tout le monde, le gaspillage alimentaire. Savez-vous que 3 milliards de tonnes de nourriture sont jetées ou perdues chaque année, ce qui correspond à un tiers des aliments produits sur la planète. Avec ce que l'Europe jette à elle seule chaque année, on pourrait nourrir 1 milliard de personnes, soit l'intégralité des personnes qui souffrent de malnutrition dans le monde.
Ces chiffres nous ont choqués et nous avons voulu savoir pourquoi il y a autant de gaspillage alimentaire, quelles en sont les conséquences et s'il est possible de le réduire.
Mais pour commencer, on va vous expliquer ce qu'est le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, c'est le fait de jeter de la nourriture encore consommable, que ce soit à la maison, dans des restaurants, les cantines ou dans les usines. Il y a même des produits emballés non consommés ou non vendus qui sont aussi jetés. Ce sont donc des aliments qui partent à la poubelle. Par exemple, un Français gaspille environ 20 à 30 kilos par an.
Le gaspillage alimentaire s'observe à tous les stades de la chaîne alimentaire et concerne tous les acteurs, producteurs, transformateurs, distributeurs, restaurateurs, transporteurs. Les consommateurs sont également responsables du gaspillage sans en être toujours conscients. La mauvaise interprétation des dates de consommation, le manque de rigueur de la gestion du réfrigérateur, des stocks ou encore des plats cuisinés dans de trop grosses quantités sont des sources de gaspillage à la maison.
Il faut savoir que la production actuelle permettrait de nourrir 9 milliards de personnes dans le monde, alors que nous sommes que 7 milliards. La surconsommation est due à la surproduction en usine ou dans les champs et elle implique le monde entier. En effet, dans les 27 pays européens, ce sont 89 millions de tonnes d'aliments qui finissent dans les poubelles. Ce gaspillage représente 179 kilos par an et par habitant en moyenne, alors que le nombre de personnes en sous-nutrition est de 183 millions en Asie et en Afrique. En bref, un tiers de la production est jeté alors que des gens meurent de faim.
Enfin, le gaspillage alimentaire a de graves conséquences. D'une part, cette surproduction épuise les ressources naturelles de notre planète alors que la population ne cesse d'augmenter et les scientifiques pensent que d'ici 2050, nous serons près de 10 milliards. Si on ne décide pas de réagir, la pauvreté et la famine vont s'aggraver.
D'autre part, le gaspillage alimentaire a un impact sur notre environnement en provoquant de la pollution. En effet, il émet autant de gaz à effet de serre qu'un pays dont le niveau d'activité se situerait en troisième position, juste après celui de la Chine et des États-Unis. Le transfert des produits d'un pays à un autre crée également de la pollution.
Heureusement, il existe plusieurs alternatives pour lutter contre cette problématique. Des associations, telles que le Secours Populaire, collectent auprès des coopératives agricoles des produits devant être jetés. Ils sont ensuite distribués aux personnes défavorisées.
Plusieurs grands magasins donnent une seconde vie aux fruits et légumes abîmés et se mobilisent pour éviter de jeter les fruits et légumes. Certains d'entre eux, pour limiter les pertes, utilisent les plus beaux fruits invendus qui finissent en pâtisserie. Les plus abîmés seront envoyés vers une usine de méthanisation pour faire du biogaz, carburant. Et le plus gros des stocks seront donnés à des associations.
Il y a aussi certaines enseignes qui commercialisent maintenant des produits moches, c'est-à-dire des fruits et légumes qui ne respectent pas les critères de sélection habituels, taille, forme, couleur, esthétique, alors qu'avant, ils finissaient le plus souvent à la poubelle.
Aujourd'hui, de nombreux supermarchés proposent à petit prix dans des bacs spéciaux des produits alimentaires dont l'échéance et la date limite de consommation est proche.
La réduction du gaspillage alimentaire relève aussi de notre responsabilité individuelle. Le fait de vérifier ses stocks de nourriture, de planifier ses menus, d'identifier les ingrédients manquants, de privilégier les achats en vrac et de mieux connaître les dates de consommation pourrait contribuer à réduire considérablement le gaspillage. En plus, de nombreux produits peuvent être consommés même si la date de consommation est dépassée, sans mettre sa santé en danger. Notre vue et notre odorat peuvent nous indiquer si l'aliment est encore bon ou non.
On peut également retrouver sur nos mobiles des applis pour limiter le gaspillage alimentaire comme Zéro Gâchis qui recense les produits en promotion proche de leur date de consommation. Check Food alerte les consommateurs par notification que leurs produits sont proches de leur DLC. Mais attention, il faudra scanner leur code barre et indiquer leur DLC. Partage ton frigo est une autre application qui permet de donner vos restes aux autres utilisateurs. Et elle permet aussi d'organiser des apéro-parties et de faire de nouvelles rencontres.
En conclusion, j'ai appris beaucoup sur ce sujet. Il m'a fait comprendre que le gaspillage alimentaire avait de l'impact sur le monde entier, sur notre santé, et qu'il y a des alternatives pour changer cela.
Ce sujet m'a fait comprendre la gravité du gaspillage. Dorénavant, je ferai attention à ma consommation. Il m'a fait également prendre conscience que le gaspillage alimentaire est mauvais pour notre planète.
Voilà un sujet sensible. Dans la chronique Environnement, sur la maltraitance animale, accueillons Tatiana et Morgane.
Bonjour, nous avons choisi de vous parler aujourd'hui de la maltraitance des animaux domestiques.
Un animal domestique est un animal qui vit avec des personnes et qui apporte de la compagnie.
La maltraitance, c'est de ne pas bien traiter l'animal, c'est-à-dire le faire souffrir de façon injuste.
On peut citer plusieurs types de maltraitance. Ne pas leur donner à boire ou à manger, ne pas les soigner quand ils sont malades, ne pas leur laisser beaucoup d'espace, les abandonner, les frapper, les laisser dehors quand il fait froid, etc.
Nous sommes donc posé la question suivante. Comment lutter contre la maltraitance des animaux domestiques ?
Il faut savoir que c'est seulement depuis le 28 janvier 2015 que les animaux ont obtenu le statut d'être vivant. Selon la loi, ils sont plus considérés comme des meubles. En réalité, la justice faisait déjà la distinction entre les animaux et les choses.
Je pense que cet amendement est surtout symbolique, mais il a le mérite d'extraire les animaux de la catégorie des biens. Ce changement donne donc à penser que le sort des animaux sera mieux pris en compte à l'avenir.
Par exemple, en septembre 2015, un avocat a demandé l'indemnisation d'un cheval devant le tribunal de Metz, une première en France.
Mais tous les animaux ne sont pas égaux, car en France, les animaux sauvages qui n'appartiennent à personne ne bénéficient d'aucune protection face aux actes de cruauté, à moins de faire partie d'une espèce protégée.
Malgré cela, certaines espèces protégées, comme les loups, peuvent faire l'objet d'une autorisation préfectorale de tir visant à réguler leur nombre. Difficile donc de s'y retrouver.
On s'est demandé pourquoi la question du bien-être animal se posait-elle seulement aujourd'hui. En fait, ce sujet est resté longtemps secondaire aux yeux des hommes, mais grâce au progrès de la science, notre regard et notre sensibilité ont évolué, car nous savons maintenant que les animaux sont des êtres sensibles. Eux aussi éprouvent des émotions telles que la peur ou la joie.
En plus, grâce aux médias numériques, l'information est de plus en plus accessible et rapide. Cela a ainsi mis en lumière la réalité cruelle de certains traitements infligés aux bêtes, comme par exemple le scandale des abattoirs ou élevage des poules dans des batteries.
En conclusion, il faut que l'homme arrête de se considérer comme supérieur et de ne pas oublier qu'il a les devoirs envers les animaux, car eux aussi ont des droits en tant qu'êtres vivants.
En bref, aujourd'hui, les animaux ne sont plus considérés comme des meubles, mais comme des êtres vivants, c'est-à-dire que l'on doit en prendre soin et de ne pas faire de mal.
Je trouve ça cruel d'agir de la sorte envers les animaux. Les animaux sont des êtres vivants et nous devons les respecter comme toute autre personne. Bienvenue à Nous fait les Acariens, qui vont nous parler de notre ville sur le projet de la mairie.
Oui Elena, effectivement, nous avons entendu parler de l'ouverture d'un grand parc de loisirs à Dreux et ça nous a donné envie d'enquêter sur le sujet.
En effet, les travaux ont déjà commencé, mais c'est en 2019 que l'ouverture de ce parc de loisirs est prévue. Il est dans la zone industrielle aux alentours de Cora, sur l'emplacement de Lille, au nord de la ville et pas très loin de notre collège.
Apparemment, dans ce centre de loisirs, il y aura un bowling, une patinoire, une piscine, un laser game, un restaurant, etc. Ce projet va sans aucun doute améliorer la vie des Drouais. Donc, on a voulu savoir ce que pouvait apporter ce projet.
Tout d'abord, il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de loisirs pour les jeunes dans notre ville, surtout pour les ados, car mis à part le cinéma et les salles de sport, il n'y a rien. Les Drouais avaient dans leur habitude de faire plusieurs kilomètres pour trouver des loisirs.
On peut donc affirmer que le principal avantage de ce projet est que tous les loisirs seront réunis au même endroit, pas besoin de se déplacer et il y en aura pour tous les goûts, pour les grands et les petits. Tout le monde a vu le succès du campus d'été auprès des familles et des petits. C'est sûr que ce centre de loisirs attirera beaucoup de monde.
En plus, le PDG de la société qui va construire ce centre en a déjà créé plusieurs parcs de loisirs, dont un en Seine-et-Marne qui marche bien.
De plus, l'ouverture de ce parc créerait des emplois, surtout que le taux de chômage de la ville de Dreux est élevé, notamment à cause de la fermeture de l'entreprise Philips, qui employait un nombre important de Drouais. Selon les informations que nous avons trouvées sur le site officiel de la ville de Dreux, le taux de chômage est de 23,4% de la population active.
Donc, on peut penser que de nombreux emplois seront disponibles à l'ouverture du parc de loisirs. Il y aura toutes sortes de métiers, comme des cuisiniers, des serveurs, des coachs sportifs, des animateurs, des techniciens, etc.
Bref, cette nouvelle structure va être un vrai gisement d'emplois potentiel pour toute l'agglomération de Rouez, car il est prévu de créer jusqu'à 300 emplois.
Dès maintenant, cela donne du travail aux entreprises du secteur, car il est nécessaire d'employer un nombre important d'ouvriers, ainsi que de nombreuses sociétés pour pouvoir démolir le site actuel et construire ce centre de loisirs.
De plus, ce projet améliorera l'image de la ville et va certainement attirer les habitants des villes voisines, qui se déplaceront jusqu'à Dreux pour profiter des nombreux loisirs qui seront à la disposition de tous. Bien évidemment, cela fera une rentrée d'argent à la ville de Dreux.
Les jeunes Drouais faisaient auparavant des sorties dans les centres commerciaux ou autres en groupe. Ils pourront ainsi se divertir autrement que de faire des bêtises inutiles dans leur quartier, ce qui ne leur rapportera que des ennuis.
Donc, je suis directeur général de la Société publique locale, qu'on appelle SPL, qui est une structure qui a été créée par la ville de Dreux et l'agglomération et qui porte différentes missions et des projets en lien avec les élus qui sont également administrateurs chez nous. L'usine à loisirs est un des projets, des gros projets qu'on porte en ce moment. Alors l'usine à loisirs, on appelle ça comme ça parce que le nom va, il y aura un nom définitif, mais pour que chacun comprenne de quoi on parle, c'est plus facile.
Qu'est-ce qu'il y aura exactement dans ce parc de loisirs ?
Vous avez vu très certainement, si vous avez l'occasion de passer par là, que tous les bâtiments de Lille ont été démolis et que bientôt on verra s'ériger les nouveaux bâtiments qui accueilleront les différentes activités ludiques et puis un certain nombre de bâtiments d'accompagnement qui peuvent être un hôtel, des restaurants, en fonction de la clientèle. Le promoteur qui s'occupe de cette opération va construire une enveloppe de bâtiments, à caractère industriel en quelque sorte, avec des habillages de façade un petit peu plus sympathiques que lorsqu'il s'agit de construire une usine. Et à l'intérieur de ce grand volume habitable vont être réalisées des cellules, et dans ces cellules, on trouvera des activités de toutes sortes liées au jeu et au loisir.
En termes d'activités, il y aura différentes choses. Il y a des choses qui sont, je dirais, bien avancées aujourd'hui, on sait ce qu'il y aura, puis il y a des choses qui sont en discussion, parce que le projet va se terminer, va s'ouvrir en début 2019. Et donc là, on est en phase, avec le promoteur, plutôt le promoteur d'ailleurs, en phase de commercialisation des espaces. On dit voilà, on sait qu'il y aura 4-5 restaurants, on sait qu'il y a toutes les chances qu'il y ait un bowling, laser game. Il y aura certainement un truc autour d'un espace pour les plus jeunes, genre entre 4 et 10 ans. Voilà, les genres de choses. Donc après, il y aura d'autres activités. Mais
salle de fitness.
Salle de fitness, certainement une patinoire. Voilà. Mais tout n'est pas encore figé, donc ça avance vite, ça avance bien. Mais on pourra annoncer, les élus pourront annoncer plus de choses définitives avant les grandes vacances. Voilà. Il y aura une conférence de presse, etc. Mais comme tout n'est pas encore négocié complètement, on ne peut pas tout dire. En tout cas, ce sera un très très bel espace, parce qu'on sera autour des 30 000 m². C'est considérable. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça va créer autour de 300 emplois. C'est stratégique en termes de pôle d'attractivité. Dreux a le plus fort taux de jeunesse en région centre. Voilà, c'est là où il y a le plus de jeunes en moyenne en région centre. Et forcément, ça correspond à une envie, à des besoins de la population Dreux. C'est-à-dire qu'il y a comme il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes attendent ce genre d'activité parce que ça permet de sortir le week-end, de faire des trucs en famille. C'est hyper important.
Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'un tel établissement, 33 000 m², avec autant d'activités de loisirs, est un établissement de portée régionale. C'est-à-dire que la ville de Dreux va capter, va voir des visiteurs arriver d'ailleurs, d'Évreux par exemple, de Chartres, de Saint-Quentin-en-Yvelines, de toute la frange parisienne qui est à l'ouest de Paris. Et donc c'est un équipement qui est important parce que en même temps que les gens vont venir s'amuser un petit peu dans l'établissement, mais ils vont évidemment faire le tour des papotes à Dreux, sur les zones commerciales, sur le centre-ville de Dreux, etc. Donc c'est un intérêt que cet établissement se réalise parce que c'est en même temps un rayonnement de la ville à l'extérieur de ses limites.
Les villes de taille moyenne comme Dreux, quand elles sortent du lot, on les connaît pour une bonne raison. Par exemple, j'ai la ville de Troyes. On la connaît pourquoi ? Parce qu'il y a des magasins d'usines. Vous savez, il y a des gros magasins d'usines où on peut acheter des affaires, des Lacoste, ce que vous voulez, à beaucoup moins cher parce que c'est en direct d'usine. Ouais, donc ça, on connaît cette ville-là pour ça. Et donc ça amène beaucoup, beaucoup de monde. Les commerçants étaient très inquiets à l'époque où ils ont créé ça. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le centre-ville de Troyes va très bien parce qu'on ramène beaucoup de flux, beaucoup de gens dans la ville qui profitent aussi du centre-ville. Oui. Donc il faut qu'on se démarque par un pôle d'attraction très fort sur Dreux.
Et c'est quand même important qu'on puisse parler de la ville de Dreux autrement qu'en évoquant le Front National et les péripéties des années
anciennes.
80.
Pendant longtemps, Dreux a une image assez négative à l'extérieur, et c'est par ce genre de choses qu'on arrive à changer l'image de la ville, à créer de l'emploi, et de dire, bah tiens, à Dreux, il y a un truc qui se passe, c'est intéressant. Il faut quand même savoir que ça va être le plus gros investissement privé sur la ville depuis, je pense, la radiotechnique, Philips. C'est 30 millions d'euros, l'investissement. 30 millions d'euros. Donc les gens qui vont mettre 30 millions d'euros sur la table pour créer ça, ils ne le font pas par hasard.
Oui, et puis c'est pas un jeu, hein. Ils n'ont pas envie de les perdre, les 30 millions.
30 millions, c'est pas comme ça. Hein. Ils vont voir la banque, et on dit voilà, on a un projet, on y croit, machin, il faut nous prêter de l'argent pour faire le. C'est sérieux, quoi. Et donc cette société, c'est BDM, ça veut dire bord de Marne à l'origine.
Vous voyez bien que des établissements comme ça, il n'y en a pas dans toutes les villes. Hein. C'est vraiment.
Il y a un maillage.
Des pôles assez distants. Parce que on envisage, enfin on pense, on va avoir environ 2 millions de flux de personnes
par an dans
cet ensemble de loisirs.
Donc 2 millions de flux, c'est énorme. C'est pas forcément 2 millions de clients, mais quand vous emmenez vos enfants faire un bowling, vous venez avec eux, ils font le bowling, voilà, c'est... Vous êtes peut-être 4, mais c'est
mais,
peut-être
mais deux qui jouent. Mais que font les parents pendant ce temps-là? Bah,
est-ce qu'ils vont prendre quelque chose au cinéma? Est-ce que plein de choses comme ça.
Et pour quand ce projet sera-t-il finalisé?
Alors actuellement, le projet, il est au stade du permis de construire. Avec, à l'issue de l'obtention du permis de construire, la finalisation de la vente du site par la ville au promoteur BDM, dont on a parlé tout à l'heure. Puis ensuite, le promoteur va construire, il y en a pour 18 mois à peu près. Hein ? Lorsque l'enveloppe va être construite, chaque locataire ou propriétaire de box à l'intérieur de cette enveloppe fera lui aussi ses travaux.
C'est 12 mois pour,
pour l'enveloppe,
tout ce qui est l'enveloppe, ouais. etc. Ouais. Et après, il y a 6 mois d'aménagement, donc maximum 18 mois. Ouais. Ils disent que si tout se passe bien, en 15, ça peut être fait, c'est-à-dire premier trimestre 2019. Ouverture.
Qui est-ce qui contribuera au financement de ce projet?
C'est uniquement du financement privé. C'est-à-dire que la ville ne débourse pas un centime pour construire le bâtiment, ni pour l'exploiter. Éventuellement, la ville pourra prendre une participation si elle veut réaliser un équipement public à l'intérieur de cet établissement, mais la ville sera à la même enseigne que tel ou tel qui fera... un futsal ou une salle de gymnastique ou autre.
Ou un bowling
ou autre. Hein. Que... sera locataire ou propriétaire ou fera l'acquisition d'un box, mais pour y établir un équipement public. Mais la ville, en dehors de cette disposition, si elle le fait, la ville ne finance pas l'opération. C'est uniquement le promoteur qui finance l'opération, comme l'a dit M. Billet tout à l'heure, avec des emprunts, avec des fonds propres, avec...
Et que pensez-vous que ce projet va apporter à la ville et à ses habitants?
Alors, moi, je crois aussi que c'est important, parce que la ville de Dreux, ce n'est pas une vache à lait. On a de l'argent qui provient des impôts. On a une détermination à ne pas augmenter les impôts de la ville de Dreux. Et donc, on a des moyens limités, en quelque sorte, pour faire face à tout ce qui est nécessaire au sein d'une ville. Donc, dans ce projet-là, on fait appel à ce qu'on appelle l'initiative privée, de telle sorte que la ville profite d'un développement commercial ou ludique, on veut comme on veut, mais la ville ne met pas d'argent dans le projet. Par contre, la ville... c'est quand même la ville qui a acheté le site de Lille. Il a quand même fallu avancer de l'argent qui nous sera remboursé quand on va revendre le terrain. La ville, à travers la maison de l'habitat, s'est chargée de la mise à niveau du terrain, des démolitions et d'un certain nombre de choses préalables. La ville se charge de la coordination de l'opération pour le montage de l'opération. Tout ça, ce sont des avances d'argent, c'est ce qu'on appelle un portage de projet. Mais tout cet argent-là va lui être en quelque sorte remboursé par l'acquisition du terrain, au final, par le promoteur.
D'accord.
Je ne sais pas comment vous, jeunes, vous percevez cette opération. Le fait de pouvoir bénéficier à Dreux de tous ces équipements ludiques...
On trouve que c'est une opportunité pour les habitants de Dreux, parce que on aura plus d'occasions de s'amuser au lieu de faire des bêtises de dehors.
Se retrouver ensemble, faire un truc, faire un bowling,
en famille comme on l'a eu.
C'est important. Ce sera un site qui sera premièrement très sécurisé, parce que c'est un site qui est fait pour les jeunes et les familles. Donc il faut, quand vous y allez avec vos parents par exemple, que vous ne soyez pas embêtés. Vous y allez détendu, parce que donc ce sera très sécurisé, parce qu'il y aura des gens d'agents de sécurité, etc., pour qu'il n'y ait pas de problème, etc. Il faut que ce soit une bonne ambiance pour s'amuser, quoi.
Il y a effectivement la sécurité pour ne pas être agressé ou quoi que ce soit, mais aussi dans un établissement comme ça qui rassemble beaucoup de monde, évidemment un service de sécurité pour s'assurer de la sécurité incendie, notamment. Hein. C'est pas on va mettre des flics à l'intérieur. D'ailleurs, ce ne sont pas des flics. Non. Hein. C'est vraiment une obligation d'avoir des agents qui surveillent en permanence, qu'il n'y ait pas un départ de feu, qu'il n'y ait pas un mouvement de foule qui risque d'apporter des dangers pour les populations. Voilà.
Et pourquoi le promoteur de l'entreprise a choisi Dreux pour créer ce parc de loisirs ?
C'est effectivement compliqué. C'est le fruit de recherches réalisées par la Maison de l'Habitat sous l'égide principale de M. Billet. Ce sont des tractations pour intéresser le promoteur à venir à Dreux. Le promoteur ne voulait pas venir à Dreux. Il ne portait aucun intérêt à venir dans cette ville tant décriée dans la presse nationale. Et puis, comme beaucoup de promoteurs ou d'industriels qui ont une mauvaise notation de la ville de Dreux, quand ils viennent à Dreux, à la mairie, qu'on les promène un petit peu dans le centre-ville, ils disent « Ah, c'est ça, Dreux ». C'est quand même autre chose que
la vision que j'avais en tête. Ouais.
De la vision que j'avais en tête et de ce qu'on me dit habituellement. Et ça s'est notamment passé comme ça avec ce promoteur, qui avait vraiment une arrière-pensée négative vis-à-vis de la ville de Dreux. Et quand on lui a fait visiter, quand ses collaborateurs lui ont précisé que oui, oui, ça valait le coup quand même de venir voir, et quand il a vu, il a dit « Ah oui, ça m'intéresse ».
Pour conclure, nous pensons vraiment que ce projet sera bénéfique pour les habitants de tout âge, enfants, ados, adultes, et n'apportera que des avantages à la ville au niveau de l'offre de loisirs, de l'emploi et de l'image de la ville.
Je trouve que ce projet apporte aux petits comme aux grands. Les gens des autres villes pourront ainsi venir à Dreux. Cela améliorera le côté touristique de la ville.
Je trouve que c'est super pour les enfants qui ne font rien de leur journée, à part jouer aux jeux vidéo, traîner dans les quartiers avec le risque de faire n'importe quoi.
Waouh, c'est génial! J'ai hâte que ce projet se réalise. Et vous? Bonjour à Claudine et Edgar qui vont nous parler des fast-foods et de leur hygiène.
Bonjour chers auditeurs, nous allons vous parler des fast-foods. Les fast-foods sont des chaînes de restauration rapide où la nourriture n'est pas chère et servie rapidement. Mais cette nourriture est-elle saine et les règles d'hygiène sont-elles respectées?
Nous allons vous expliquer ce que sont les fast-foods et pourquoi ils ont autant de succès. Ensuite, nous allons vous présenter les inconvénients de ces restaurants et vous proposer des alternatives pour pouvoir manger bien et rapidement.
Tout d'abord, le mot fast-food veut dire nourriture rapide. Les fast-foods sont donc des chaînes de restauration rapide et elles ont énormément de succès pour diverses raisons.
Tout d'abord, on y trouve des menus complets et pas chers. Par exemple, les prix se situent en moyenne entre 5 et 10 euros. Beaucoup de jeunes aiment y manger, mais pas seulement, car près de 20% des salariés en France préfèrent l'option des fast-foods pour leur pause déjeuner très courte.
De plus, l'autre avantage est que nous pouvons emporter les plats. Il y a aussi le service Drive qui permet de commander des menus sans sortir de sa voiture. Cela nous fait gagner du temps et nous laisse libres de choisir de manger où on veut, sur place ou ailleurs.
Et le dernier avantage est que les fast-foods nous acceptent comme on est, même en tenue de travail, d'où le slogan du McDonald's « Venez comme vous êtes ». Ça permet donc de toucher un public plus large, mais plus les jeunes enfants, car cette jeune clientèle est attirée par les jouets qui se trouvent dans certains menus comme le Happy Meal au McDonald's.
Mais cette nourriture a aussi des inconvénients, car si on en consomme trop, cela peut être mauvais pour la santé. Cette nourriture est trop grasse, trop salée, trop sucrée et pauvre en vitamines et en fibres.
En plus, elle contient divers produits chimiques et additifs qui peuvent provoquer des maladies comme l'hypertension artérielle et le diabète. Il faut savoir que 6 des 11 facteurs de risque de maladie sont liés à ce que l'on mange. Il faut donc modérer la consommation de cette nourriture.
Mais il faut aussi faire attention aux règles d'hygiène qui ne sont pas toujours respectées. En juin 2015, des scientifiques britanniques ont analysé les glaçons de 10 fast-foods différents connus. L'analyse a montré que les glaçons de 6 fast-foods sur 10 étaient plus sales que l'eau des toilettes, et que cela était dû aux moisissures qui se sont incrustées dans les machines à glaçons.
Voici quelques alternatives. D'abord, vous pouvez dénoncer le manque d'hygiène dans les fast-foods. On peut faire appel au SCHS, Service communal d'hygiène et de la santé, ou à la DDPP, Direction départementale de la protection des populations.
Il y a plusieurs solutions, comme par exemple préparer son déjeuner soi-même, car on sait ce qu'il y a dedans. C'est plus sain et moins cher. On peut prendre le temps d'acheter les bons produits frais ou surgelés.
Mais si vous tenez à manger quand même au fast-food, on peut modérer la consommation de nourriture grâce en choisissant par exemple de la salade à la place des frites.
En conclusion, aller au fast-food doit être quelque chose d'occasionnel. Il vaut mieux privilégier la nourriture faite maison.
Je mange souvent au fast-food parce que je trouve ça pratique et bon, mais en travaillant sur ce sujet, je ferai plus attention à ce que je mangerai.
Je mange une à deux fois au fast-food par mois, mais je connaissais déjà les risques qu'il y avait. Ce sujet m'a fait encore plus réfléchir à propos de ces restaurants.
Je pense que c'est bon de manger au fast-food, mais il faut essayer de modérer. Parce que c'est pas très sain et c'est pas bon pour la santé, ça peut nuire à la santé de la personne. Dans la chronique sport, écoutons Eric et Antoine sur les Jeux Paralympiques.
Déjà, bonjour à tous. Les Jeux Paralympiques sont des Jeux Olympiques conçus spécialement pour les handicapés. On appelle ça aussi handisport. Cela a été créé spécialement pour les handicapés pour qu'ils puissent participer à des compétitions et se surpasser.
Ce sujet nous a intéressés car nous sommes surpris de voir des performances remarquables de gens qui à la base ont un handicap et nous nous sommes demandé comment l'handicap physique pouvait devenir une force mentale.
On va commencer par vous expliquer l'histoire de ces jeux, puis les types d'handicap et les compétences développées par les handicapés.
Tout d'abord, les Jeux Paralympiques ont été créés en 1960 par Ludwig Göttmann. Au début, les Jeux étaient destinés aux militaires handicapés dans les hôpitaux.
Au lancement des premiers Jeux Paralympiques, il y avait 400 athlètes, dont 21 pays participants et seulement 5000 spectateurs dans les tribunes. Mais progressivement, ces Jeux ont touché un public plus large et les Jeux Paralympiques ont une meilleure reconnaissance. Par exemple, en 2004, il y avait 10 fois plus d'athlètes, 146 pays participants et 120 000 téléspectateurs.
Les handicapés qui participent à ces Jeux ont majoritairement une déficience visuelle. Ils pratiquent par exemple du cécifoot, de l'athlétisme, du cyclisme. Les handicapés possédant une déficience visuelle doivent être accompagnés par un tuteur. Ce tuteur doit courir à la même vitesse que le sportif handicapé. Il est là pour guider l'aveugle afin qu'il suive la piste et éviter les obstacles.
D'autres handicapés possèdent une déficience physique. Ces handicapés pratiquent des disciplines telles que l'athlétisme, l'aviron, le basket-fauteuil, le canoë-kayak, l'équitation et l'haltérophile. Ainsi que d'autres disciplines praticables avec du matériel adapté, comme des fauteuils roulants spécialisés ou des prothèses.
L'importance des athlètes handicapés des Jeux Paralympiques a évolué dans la société. Mais ces Jeux ont malheureusement trop peu de succès auprès du public car les télévisions ne les rediffusent pas en direct et ils ont lieu bien après les autres, ce qui est vraiment dommage.
Pourtant, ces Jeux méritent le plus d'attention, plus d'honneur, car de mieux en mieux préparés, les athlètes de l'handisport accomplissent des performances de très haut niveau.
Par exemple, le 18 septembre 2010, Philippe Croizon a réalisé un exploit inédit. Il a traversé la Manche en 13h26 sans posséder de jambes ni de bras. En 1994, à l'âge de 26 ans, il perd l'usage de ses bras et de ses jambes suite à une décharge électrique de 20 000 volts. Après des mois d'hospitalisation, des dizaines d'heures d'opérations, des centaines de jours de rééducation, il a malgré tout réussi cet exploit.
Cela montre que les handicapés ont une véritable force mentale et de combativité, car le sport est un véritable défi. Ils doivent se surpasser pour dépasser leur handicap.
En conclusion, on peut affirmer que les handicapés qui pratiquent ce sport accomplissent de véritables exploits que beaucoup de personnes valides seraient incapables de réaliser.
Il est donc important de donner un maximum de visibilité aux épreuves paralympiques. Par exemple, on pourrait les joindre aux épreuves olympiques, mais l'idéal ne serait pas un jour de fusionner les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques.
J'admire ces personnes car, malgré leurs difficultés, elles montrent toujours un véritable courage et se surpassent pour vaincre leur handicap. Une belle leçon de vie.
Je trouve incroyable que des personnes handicapées réalisent des choses comme ça. Ça m'a prouvé que certaines personnes handicapées sont prêtes à se battre pour être considérées normales. Je trouve ça honorable.
Je trouve ça tellement beau les Jeux Paralympiques. Le fait que des gens avec un handicap puissent participer, comme tout le monde, à cette compétition. On offre une chance à tout le monde, même des gens qui ne sont pas comme nous. Ah, une chronique très fun. Dans la chronique tendance, les youtubeurs avec Paul et Jeanne.
Aujourd'hui, nous allons vous parler des youtubeurs. Vous devez tous savoir que YouTube est une plateforme internet mondialement connue où l'on peut poster des vidéos de tout genre. De là est né un nouveau métier, celui de youtubeur, mais en réalité, il y a très peu de youtubeurs professionnels.
Comme YouTube est facilement accessible et attire beaucoup les jeunes et même les personnes de tout âge, nous nous sommes demandé comment font-ils pour avoir autant de succès. et quelle influence ils peuvent avoir sur nous, les jeunes.
Dès l'âge de 11 ans, n'importe qui peut devenir youtubeur. C'est-à-dire que l'on peut se créer une chaîne sur YouTube et poster des vidéos sur n'importe quel sujet. Et là, vous aurez une communauté qui regardera vos vidéos et les commentera.
Je suis sûr que si je vous dis Cyprien ou Norman, ça vous parle. Par exemple, Cyprien Yov est devenu un célèbre youtubeur en faisant des vidéos d'humour, des satires, c'est-à-dire qu'il critique notre société en se moquant. Il fait des vidéos depuis 9 ans et a même gagné 2 fois le Web Comedy Award, qui est une cérémonie qui récompense les youtubeurs.
Mais le youtubeur le plus connu est PewDiePie, ça vous parle toujours. C'est un jeune youtubeur suédois de 27 ans qui est aussi connu sous le nom de Félix Arvid Ulf Gjellberg. Il se filme en train de jouer à des jeux vidéo et il fait souvent le buzz.
Comme beaucoup de jeunes vont quasiment tous les jours sur YouTube, à chaque minute, 400 heures de vidéos sont postées sur YouTube. Il est évident que les youtubeurs arrivent à nous influencer de différentes façons, dans de nombreux domaines. Tendances, mode, beauté, jeux vidéo. Mais ils influencent aussi nos actions et notre façon de penser. Et cette influence peut être négative et même dangereuse.
Vous avez certainement vu circuler des vidéos sur YouTube où des jeunes se filment en train de faire des défis. Par exemple, le défi du scotch. Ce défi consiste à envelopper une personne dans du gros scotch et à la filmer en train d'essayer de se libérer. Ou encore, le défi du saut glacé. Mais ces défis sont stupides et ont même causé des morts ou des blessures très graves.
Le pire est celui des youtubeurs américains qui s'envoient eux-mêmes par la poste dans des cartons. Ici, le risque est vraiment énorme car ceci est illégal, mais surtout, ils risquent leur vie de manière stupide et poussent les autres à faire pareil pour créer le buzz sur Internet.
Voici un autre exemple plutôt récent, celui de Enjoy Phoenix, une jeune youtubeuse de 20 ans qui a plus de 2 millions d'abonnés et qui a posté une vidéo où elle explique comment faire un masque à base de cannelle. Celui-ci a été utilisé par de nombreuses jeunes filles, mais cela a causé de graves brûlures chez certaines.
Ou encore l'exemple d'Ibra TV que vous devez sûrement connaître et qui a très récemment posté plusieurs vidéos. Une où il se pend d'une main à une grue très haute, une autre où il se fait enfermer dans plusieurs magasins, ou encore une autre où il fait exploser des bonbonnes d'essence.
On peut encore donner plein d'exemples, mais rassurez-vous, on y retrouve aussi des influences positives. Nous allons prendre comme exemple la belle et célèbre youtubeuse Enjoy Phoenix, qui a sorti il y a environ un an une vidéo où elle nous raconte le harcèlement dont elle était elle-même victime. Cette vidéo a aidé beaucoup de jeunes à sortir de leur silence et à en parler autour d'eux. Il y a plein d'autres exemples de youtubeurs qui font des vidéos drôles sur notre société, comme Natou, Cyprien et plein d'autres.
Bref, YouTube a tellement de succès qu'un salon des youtubeurs français a été créé. Pour finir, être youtubeur a des avantages, comme celui d'avoir un public, de se faire connaître. Mais prenez garde à ne pas vous mettre en danger et sachez que vous avez de l'influence sur beaucoup de monde, mais surtout les jeunes. Donc, surveillez votre comportement et vos paroles.
Pour ma part, en faisant ce sujet, j'ai appris énormément de choses, même si le sujet en lui-même ne m'intéressait pas plus que ça. J'espère quand même qu'on vous a fait réfléchir et que vous regardez les youtubeurs d'un autre œil. Un œil critique et que vous ne suivrez pas le mauvais exemple qu'ils vous donnent parfois.
Eh bien pour ma part, je n'ai rien appris de nouveau sur ce sujet, même s'il était vraiment intéressant.
Ah, je veux devenir youtubeuse. Mais attention les jeunes, il ne faut pas faire des vidéos stupides. Pour finir, écoutons Loïc et Vanak sur le Pokémon Go.
Bring the action.
Bonjour, nous sommes Loïc et Vanak et nous allons vous parler du phénomène Pokémon Go.
En ce moment, on entend beaucoup parler. Cela a provoqué le buzz partout dans le monde. On a donc voulu savoir ce que c'est, pourquoi ce jeu a autant de succès et quels sont ses avantages et ses inconvénients.
Tout d'abord, Pokémon Go est une application qui a été créée par Niantic et par The Pokémon Company le 6 juillet 2016 en Australie. Elle est sortie en France le mois suivant.
Pokémon vient de Pocket Monster, monstre de poche. Un Pokémon est un animal imaginaire doté de super pouvoirs. Vous en connaissez sûrement quelques-uns, Pikachu, Bulbizarre, Salamèche, Carapuce et bien d'autres. À l'origine, c'était un jeu vidéo créé en 1996 par le japonais Satoshi Tajiri. Son adaptation en dessin animé lui a permis de se faire connaître dans le monde entier.
C'est un jeu différent des autres jeux sur Internet où on reste souvent assis devant l'écran. Pokémon Go consiste à marcher partout dans les rues et à attraper des Pokémon dans les lieux parfois méconnus à l'aide de son téléphone portable.
Lorsqu'on attrape des Pokémon, on peut les faire combattre contre d'autres Pokémon de différents dresseurs appartenant à d'autres teams, c'est-à-dire équipes.
L'augmentation des niveaux favorise l'apparition de Pokémon de plus en plus haut. Par exemple, au niveau 1, il y a un Rattata et au niveau 20, un Dracolos. Ce jeu nécessite un téléphone compatible, un bon forfait internet et une batterie externe.
On y retrouve les Pokémon de la première génération qui ont fait le buzz il y a 20 ans. C'est vraiment le premier jeu de ce genre car il mélange monde réel et monde virtuel. Pokémon Go a tellement de succès qu'il a été téléchargé plus de 100 millions de fois.
Le premier avantage de ce jeu, c'est qu'il permet aux joueurs de sortir de chez eux pour se retrouver dans des lieux publics. Il crée aussi des relations entre différents joueurs qui peuvent se parler quelques minutes. Parfois, ils peuvent même devenir amis. Cela réunit plusieurs générations. celle d'il y a 20 ans qui les adorait et celle qui les découvre aujourd'hui par le biais de ce jeu.
Un autre avantage, c'est qu'il permet de découvrir des lieux insolites. Cela permet aussi d'enrichir sa culture quand les Pokéstops sont placés dans des endroits historiques. En plus, les joueurs en profitent aussi pour faire de la marche, ce qui est bien pour leur santé.
Mais ce jeu a aussi des inconvénients. Par exemple, il peut causer des accidents de la route. Il y en aurait eu 20 en France à cause de ce jeu. De plus, certaines chasses ont lieu dans des endroits interdits, comme dans des écoles, dans des bases militaires ou dans des sites à la mémoire de combattants morts pour la France, tels que l'ossuaire de Douaumont. Cela pose des problèmes de sécurité évidents.
Mais Niantic a déjà supprimé des Pokémon dans certains lieux dangereux, mais aussi se placer dans les mémoriaux de la Shoah qui étaient couverts de leurre, objets permettant de faire venir des Pokémon, donc des visiteurs, qui empêchaient les gens de se recueillir dans le calme.
Le deuxième inconvénient, c'est que certaines personnes ne vivent qu'à travers la virtualité et se coupent de la réalité. Par exemple, il y a des personnes qui jouent au travail. C'est même le cas de personnages politiques importants, comme le ministre de Norvège attrapé en flagrant délit pendant une séance au Parlement.
Enfin, le dernier inconvénient est que le scénario peut aussi manquer de contenu. Il faut sans cesse attraper et faire éclore des œufs. Donc, les joueurs peuvent s'ennuyer au bout d'un moment.
Finalement, ce jeu a fait le buzz car il est le premier de son genre. C'est vraiment un jeu différent des autres jeux et pour moi, le principal intérêt, c'est que l'on ne reste pas assis toute la journée devant l'écran. Mais ce jeu cause quand même de nombreux incidents.
Nous pensons que Pokémon est un jeu attractif mais qu'il nécessite un environnement sécurisé pour les joueurs. Il appartient aussi aux gamers de faire attention lorsqu'ils traversent les rues et de ne pas pénétrer dans les lieux interdits.
Personnellement, je trouve ce jeu très dangereux, qu'il ne faut pas jouer quand on est en train de conduire. Et j'aime pas trop ce jeu parce que je trouve que c'est enfantin. Je vous remercie d'avoir été avec nous, de nous avoir écoutés et vous souhaite une très belle journée. Au revoir et à bientôt. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance. Things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. So high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. You when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. I can't stop the, 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 I can't stop the
Just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance.